Nous allons voir maintenant ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'était le routage statique et manuel. En effet, pour un réseau petit, l'administrateur peut configurer les routeurs une fois pour toutes. Manuellement, il spécifie l'adresse, les adresses IP de chaque routeur et spécifie pour chacun des routeurs dont il a la charge la table de routage. Cela signifie que le routage est manuel puisque c'est l'administrateur qui a spécifié le routage et vous allez faire cela en TP aussi. Et le routage est aussi statique parce que tout le temps il sera le même. Bien sûr, là, il fera attention à mettre le chemin le plus court. Par exemple, si on regarde en bas dans le schéma, sur le routeur en bas à droite, il va mettre la destination Internet pour aller vers le routeur en haut. Il n'est pas bête pour mettre comme routeur suivant le routeur à gauche, alors que la destination est Internet. Je vous laisse compléter dans ce schéma, ou plutôt réfléchir dans ce schéma, combien de lignes a la table de routage du routeur qui se trouve en bas à droite? La réponse est 1, 2, 3, 4, réseau direct, 5, le routeur par défaut pour Internet, ensuite 6, 7, 8 pour les trois réseaux qui sont à gauche. Bien sûr, ce routage a des problèmes. Un problème est que si un réseau a beaucoup de routeurs, faire soi-même tous les calculs pour mettre les tables de routage sur chacun des routeurs devient fastidieux. Un autre problème est que si un lien casse, par exemple le lien EFGH, EEFG0 casse, eh bien cela veut dire que toute la partie droite du réseau est indisponible. Et il faudra que l'administrateur vienne au travail pour reconfigurer ce routeur. Pour éviter cela, le routage dynamique est utilisé qui fonctionne de la manière suivante. Tous les routeurs, régulièrement, par exemple toutes les 30 secondes, s'échangent des messages sur les réseaux auxquels ils sont connectés. Et ainsi, petit à petit, au bout de quelques minutes, chaque routeur connaît tous les réseaux, a une vue globale de tous les réseaux. Et, encore une fois, l'administrateur n'a plus à écrire soi-même la table de routage. Et deuxièmement, si un lien tombe en panne, au bout de quelques minutes maximum, le réseau se reconfigure lui-même. Dernière transparence ainsi sur le suradressage. Supposons qu'un organisme a quatre réseaux qu'il slash 24 attribués. La table de routage qui existe sur le routeur précédent est la suivante. Et vous l'avez ici dessiné, présenté. Le suradressage, très attention, permet de réduire la taille des tables de routage. C'est-à-dire que ces quatre lignes de la table de routage peuvent être remplacées par une seule. Laquelle? Celle qui se trouve ici, 192.168.0/22. Eh bien, si vous regardez bien, la table de routage avec les quatre lignes est strictement exactement la même, a le même effet que la table de routage avec une seule ligne. Pour que cela fonctionne, il faut que les réseaux soient contigus, c'est-à-dire 48, 49, 50, 51. Cette technique est largement utilisée à partir d'un certain moment sur Internet où les blocs continus, 48, 49, 50, 51 par exemple, ont été affectés à des réseaux géographiquement proches. C'est-à-dire 48 a été donné en Belgique, 49 en France, 50-51 en France et en Belgique aussi. Cela, au contraire, si au lieu de cela, il avait été fait d'une autre manière, par exemple 48 en France, 49 en Chine, 50 aux États-Unis, on n'aurait pas pu utiliser cette technique. Mais, en fait, encore une fois, quand ces réseaux ont été attribués, ces adresses IP, on les a attribués de manière intelligente pour que les réseaux l'un après l'autre, d'adresses IP l'un après l'autre, soient très proche géographiquement. Ainsi, le routeur précédent qui est branché, qui est connecté à tous ces réseaux, n'a qu'à mettre une seule ligne dans sa table de routage au lieu d'en avoir plusieurs.